Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 31e de la 8e saison et nous recevons aujourd'hui deux invités, Marc Azéma, archéologue narbonnais et réalisateur notamment de films, et puis Ambroise Lassalle qui est le conservateur du musée Narbovia. Tout cela pour parler non pas tellement du musée en soi, mais plutôt d'une exposition qui a été ouverte il y a quelques jours à peine, qui va durer je crois plusieurs mois, enfin on va le voir, et qui s'intitule « Narbomarsus, renaissance d'une capitale ». Alors c'est, il s'agit bien entendu de la Narbonne romaine, une exposition que je trouve pour ma part particulièrement attractive parce que spectaculaire sur le plan de l'image. Donc ça me semblait mériter un Radio Bark, et merci à vous deux d'être présents pour en parler. Alors peut-être un petit mot d'abord. Un archéologue, on sait ce que c'est. Un réalisateur, il fait, bon, on sait ce que c'est. Un conservateur de musée, peut-être que les gens savent pas tout à fait quel est son rôle. Ambroise Lassalle.
Effectivement, c'est vrai que c'est un mot que tout le monde connaît, mais finalement, on sait jamais trop à quoi ça renvoie. En quelques mots, un conservateur, au départ, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui conserve des collections patrimoniales, au départ. Et donc, c'est quelqu'un qui a pour mission de s'assurer que, alors, quand on parle de collections patrimoniales, c'est des tableaux, c'est des objets archéologiques, ça peut être des collections de sciences naturelles. Mais son rôle, c'est de les conserver dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent être vues par les visiteurs. Ça, c'est vraiment le départ, et c'est là au 19e siècle notamment, et c'est un métier qui s'est beaucoup diversifié, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça renvoie, ça désigne en général les personnes qui sont des chefs d'établissement et qui doivent assurer les missions principales d'un musée. Et qu'est-ce que c'est ces missions? C'est trois missions. D'abord, bien sûr, conserver la collection patrimoniale, étudier cette collection pour qu'elle soit connue, mieux connue, et surtout la diffuser auprès du public. Parce qu'en fait, un musée, c'est ça. Des collections, si on les connaît mal, ça sert à rien. Et si on les diffuse pas auprès du public, elles n'ont aucun intérêt d'être conservées longtemps.
Mais oui, donc il y a un rôle de communication au bon sens du terme, c'est-à-dire faire savoir.
C'est ça. Faire comprendre les collections.
Et faire comprendre et expliquer, oui.
Tout à fait, oui. Et c'est vrai que pour le domaine de l'archéologie, ça renvoie au passé, faire comprendre le passé. Là, en l'occurrence, pour Narbovia, c'est le passé romain de la ville de Narbonne.
Oui, oui, oui. Alors, on va revenir là-dessus parce qu'il y a fort à dire là-dessus et Marc Azéma est bien placé pour le faire. Mais sur la notion, justement, de comprendre le passé, rapidement, parce qu'on y reviendra probablement, au musée Narbovia, il y a un département recherche.
Oui, tout à fait. Alors, le musée est conçu dès le départ, a été conçu pour intégrer une dimension recherche pour, on va dire, aider à la recherche archéologique sur ce territoire. Et cette intention, elle a pour point de départ l'idée, la réalité selon laquelle à Narbonne, les vestiges sont pas visibles, sont moins visibles qu'ailleurs, si on se compare avec des grandes villes romaines du sud de la France. Et si ces vestiges sont moins visibles, ils ont besoin de plus de travail de la part des archéologues pour comprendre ce passé et pour ensuite l'expliquer et le valoriser. D'où, voilà, une dimension recherche. Alors ça se manifeste comment au musée? C'est qu'on a des espaces prévu pour accueillir des chercheurs. On a un grand espace de 200 mètres carrés où on peut accueillir des chercheurs qui viennent étudier nos collections ou des restaurateurs qui viennent restaurer les objets. Et c'est un espace où on va, voilà, on a récemment accueilli des chercheurs qui sont venus étudier des blocs de pierre de notre fameuse collection lapidaire. Et prochainement, on va aussi recevoir une doctorante qui travaille sur les peintures murales. Donc c'est un espace qui est amené à être occupé par différents chercheurs régulièrement.
Voilà, il faut le signaler, d'autant plus que c'est une partie qui ne sera pas visible du public forcément,
c'est ça, ouais.
Mais qui est réel et qui aura probablement à l'avenir des impacts justement sur l'explication et sur les choses à savoir, ouais, et à voir.
Tout à fait. C'est vrai qu'en accueillant ces chercheurs, l'idée c'est de renouveler nos connaissances parce que, comme je vous disais, on a encore beaucoup à apprendre sur cette ville, lointaine ville romaine. Et pour renouveler nos connaissances, il faut aider au travail des archéologues, des chercheurs. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de renouveler, à l'avenir, renouveler ce musée et ainsi d'en faire un lieu qui reste attractif.
Oui, oui, qui se renouvelle automatiquement en quelque sorte.
C'est ça, ouais.
Alors, pour ce qui est de l'archéologie, nous avons la présence de Marc Azéma, qui est archéologue et narbonnais. J'aime bien mettre les deux côte à côte parce qu'il me semble que ça n'a pas la même signification un archéologue et un archéologue narbonnais, et Marc Azéma, que nous avions déjà reçu à cette émission, est d'accord pour faire prendre en compte cette réalité. Narbonne, capitale romaine, ça a besoin d'être prouvé. Alors, Marc Azéma, vous vous y êtes attelé, vous êtes un peu comme Astérix, tombé dans le chaudron, là, assez jeune.
Voilà, moi j'y suis tombé quand j'étais collégien, j'ai participé à la délégation de jeunes collégiens qui est partie à Rome en 1982 pour symboliquement recevoir la reproduction de la Louve, qui est actuellement donc visible au Palais des Archevêques, donc qui était un peu le symbole du lien entre Narbonne, Narbomartius et Rome, en tant que fille de Rome.
Donc ça, parenthèse d'ailleurs, avec une copie en haut de la rue droite, près de la place du Forum.
Tout à fait. La fameuse Louve donc, qui est visible à ces deux endroits, qui symbolise à la fois la naissance
et la
puissance de Rome. Et donc là, c'était, on a pris conscience lors de la réception de cette reproduction à Rome, dans le cadre de la mairie de Rome, que nous vivions, jeunes collégiennes, dans une capitale. Donc là, moi, ça a été un peu le déclic qui fait qu'à partir de là, je me suis toujours posé la question de savoir à quoi ressemblait cette capitale, parce que la problématique essentielle qui a déjà été évoquée par Ambroise, c'est qu'on est dans une des plus grandes villes citées de l'Antiquité, fondée par Rome, et on ne la voit pas. Donc l'archéologie est très importante parce qu'elle permet de révéler des matériaux, des monuments qui étaient sous terre. Mais à partir de là, il y a tout un travail de médiation à faire qui a démarré il y a déjà pas mal de décennies et qui est capital pour à la fois montrer redonner sa place à cette capitale auprès des Narbonnais, mais au-delà de ça, auprès du public le plus large, et faire enfin rentrer cette capitale dans les livres d'histoire, parce qu'elle est évoquée de temps en temps dans certains ouvrages scientifiques, vous voyez ce que je veux dire, mais au niveau, en termes pour le grand public, c'est à peine évoqué entre deux, trois lignes, alors qu'on a des pages entières sur Nîmes, Arles. Moi, j'ai rien contre Nîmes et Arles, c'est fabuleux. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien montré.
Nîmes et Arles ont gardé des choses tangibles, comme par exemple les arènes, ce qui n'est pas rien.
Exactement, donc des monuments symboles de cette romanité qui existaient à Narbonne, mais qui ne sont plus visibles. Et heureusement, bon, au fil des ans, à travers les découvertes du Clos de la Lombarde, qui sont capitales également, et de la Via Domitia au centre-ville, progressivement, on s'est dit, bon, voilà, on en parle, mais elle est là. La ville est bien là. Récemment, avec la nécropole près du musée, donc on voit bien, on arrive à vraiment délimiter le territoire de la ville. Les fouilles des ports par Corinne Sanchez, à l'échelle des étangs, où on a toujours parlé d'un des plus grands ports de l'Antiquité, mais là, c'est pareil.
Mais c'est pareil.
Il est où, ce port? Donc, voilà, donc, et on ne le voit pas. Alors, progressivement, il y a tout un récit à mettre en place qui est en cours grâce au travail des archéologues de Corinne Sanchez, Raymond Sabrier et tous les archéologues qui travaillent sur le terrain depuis très longtemps et qui permettent de nourrir une histoire qu'il faut vraiment construire ensemble. C'est pour ça que la venue du musée est capitale, parce qu'enfin, là également, on a un grand musée. Pourquoi il y a un grand musée à Narbonne? Parce que c'était une capitale. Donc,
par rapport à la population, en dépit des apparences, de la matière.
Exactement. Mmh. S'il n'y avait pas la matière, il n'y aurait pas musée de ce calibre-là, il ne serait pas visible sur le territoire, et les Narbonnais, à ce moment-là, ne prendraient pas conscience de l'importance de leur ville. Et, et à l'extérieur, c'est vrai que c'est fondamental d'avoir ce musée, parce que ça devient un phare pour valoriser ce patrimoine ancien.
C'est quelque chose de visible, absolument,
Exactement. Et
de palpable et de tangible. Voilà. Et alors, Marc Azéma, donc vous êtes devenu archéologue, donc on fouille et on essaie de redécouvrir et d'expliquer. Mais en même temps, vous vous êtes devenu réalisateur, c'est-à-dire là, vous faites du cinéma, vous faites des films. Mmh. D'ailleurs, il y en a un qui est passé sur les médias et les chaînes de télévision assez récemment, où justement, vous faites revivre Narbonne. Vous, alors attention aux mots, aux termes, je crois que vous faites la différence entre reconstituer et restituer quand vous faites ressortir comme ça de, par l'imagerie la ville, vous faites non pas de la reconstitution mais de la restitution. Peut-être pouvez-vous expliquer cette conception.
Alors bon, moi, c'est toujours très compliqué parce qu'on mêle les deux termes régulièrement. Nous les premiers, bon, je pense qu'il y a la restitution va un peu plus loin dans le sens où on restitue auprès du public. La phase de reconstitution est un peu intermédiaire. Enfin, ça dépend comment on prend les deux termes. Pour moi, c'est pas trop. Finalement, c'est pas très important. L'important, c'est de dire voilà, on a de la science, donc qui correspond donc aux recherches archéologiques menées par les archéologues. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en tient à montrer à l'État, ou est-ce qu'on va un peu plus loin et est-ce qu'on génère des hypothèses de reconstitution et de restitution?
Voilà, mais il y a l'hypothèse quand même qui entre en jeu, chose qui n'est pas forcément scientifique dans la mesure où on est censé s'appuyer sur des faits avérés.
Pour moi, c'est scientifique, je le revendique. Je suis archéologue, bon, je suis préhistorien de formation, mais je suis passionné par l'Antiquité et toutes les périodes de notre histoire. On a la problématique aussi du Moyen-Âge à Narbonne qui est très importante et qui est fabuleuse, il y a un potentiel énorme. Mais moi, je revendique que justement, ce travail de reconstitution, de restitution, fait partie, comme la médiation, du travail de l'archéologue. Pendant toute ma carrière, j'ai croisé des archéologues ou des spécialistes des scientifiques qui disaient moi c'est pas mon boulot de faire de la médiation ou de la restitution. Si.
Oui,
c'est pardon. Votre boulot. Vous êtes dans la transmission, ça fait même partie des contrats qui sont signés au CNRS, etc. Là, moi, j'ai travaillé énormément avec le CNRS Images. Pendant des années, il y avait des cours de formation pour aller faire des interviews à la radio, pour travailler sur la médiation. Ça fait
partie. C'est-à-dire s'ouvrir vers l'extérieur.
Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que ce qui est capital aussi, c'est que l'archéologue et le médiateur puissent travailler ensemble. C'est vrai que moi, pendant longtemps, voilà, moi j'ai un peu étant des deux côtés, j'ai travaillé avec des archéologues qui voulaient justement aller vers la médiation, d'autres qui ne voulaient pas, et des médiateurs qui voulaient travailler avec des scientifiques, mais ils ne voulaient pas que ça soit chiant, entre guillemets, parce que là, ça fait peur. Il ne faut pas que ça soit trop pénible pour l'auditeur ou le spectateur. Donc il y a un dialogue qui se met en place depuis maintenant, progressivement, qui fait que ça devient quand même de plus en plus évident que le travail de l'archéologue va aussi jusqu'à la médiation, parce qu'il faut transmettre. L'INRAP a des services de communication par rapport à ça. Les scientifiques de l'INRAP, par exemple, sont soumis à faire ça, le CNRS aussi, et le ministère de la Culture également. Donc c'est un travail très important, il faut échanger. Alors c'est sûr que c'est lourd, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Oui, mais effectivement, l'archéologie, depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, s'est mis à communiquer beaucoup mieux, semble-t-il.
Mais c'est vrai que si on y réfléchit bien, finalement, le travail d'un archéologue, au fond, lorsqu'il découvre des vestiges, qu'il le veuille ou non, sa mission, c'est de comprendre ce qu'il y avait à cet endroit-là. Donc il le fait dans sa tête, qu'il le veuille ou non, c'est de reconstituer un
ensuite,
site, etc.
Mais ensuite, d'aller expliquer et montrer.
Et après, comme disait Marc, l'important, c'est après, il y a toujours des hypothèses qui sont formulées. Et l'intérêt, c'est de le faire avec des personnes compétentes qui sont capables de les faire. Je prends un exemple un peu délirant. Ici, à Narbonne, on imagine qu'il y avait des pyramides. On aurait pu imaginer de construire des pyramides. En fait, non, on sait que Narbonne, c'est pas l'Égypte, c'est la Gaule romaine, etc. Donc voilà, je force le trait, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est toujours une réalité qui est intéressante à montrer.
Voilà. Alors, ceci étant posé, on va voir justement, on va arriver concrètement à cette exposition. On marque tout d'abord une première pause et on va entrer en plein dans le vif du sujet, essayer de vivre justement, on compte sur vous pour faire comprendre ce qu'ont pu être ces bâtiments, et en tout cas la notion d'aller au musée pour les voir en matière de film, à peu près comme si on y était au pied des marches du Capitole. À tout de suite.